Radio Kapi.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Kapi, guerre dans l'est de la RDC. Le groupe d'experts de l'ONU tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport adressé au Conseil de sécurité, il dénonce une dégradation grave de la situation sécuritaire et humanitaire et accuse la rébellion AFC-M23 de vouloir se substituer à l'autorité de l'État dans les zones sous son contrôle. Le choléra continue de sévir à Kindu, au Maniema. Une dizaine de cas, dont un décès, sont déjà enregistrés en ce début d'année. Les autorités sanitaires appellent à éviter l'eau impropre et rassurent sur une prise en charge gratuite des malades avec l'appui de l'OMS. Un mois après l'accord de paix RDC-Rwanda, les combats persistent sur plusieurs fronts. Pourquoi les armes ne se taisent pas? Éclairage du porte-parole du gouvernement qui répond aussi sur les interpellations d'opposants et l'initiative d'un dialogue national. Patrick Mouyaya est l'invité de ce journal. Bonsoir à tous. Le groupe d'experts des Nations Unies a transmis au président du Conseil de sécurité un rapport consacré à la situation en République démocratique du Congo. Ces documents mettent en lumière la dégradation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. Dans une lettre datée du 30 décembre 2025, les experts affirment que la rébellion AFC-M23 a cherché à se positionner comme une autorité de substitution à l'État congolais dans les zones qu'elle contrôle. Des détails avec Askin Zigbia Tayoro.
Dans ces rapports, le groupe des experts prouve que l'AFC-M23 a établi dans les territoires sous leur contrôle des structures administratives, judiciaires, budgétaires, sécuritaires et y assume les fonctions essentielles de l'État. Les rapports montrent que dans le Nord Kivu et le Sud Kivu, malgré les avancées réalisées quant aux efforts de médiation, la situation en matière de sécurité s'est détériorée et a été marquée par de violents affrontements armés. La situation humanitaire a empiré et les attaques généralisées et systématiques contre les civils, ainsi que les violences sexuelles liées au conflit se sont multipliées de façon alarmante. C'est comme ça que selon la même source, l'AFC-M23 a étendu sa campagne militaire dans le Nord Kivu et le Sud Kivu avec le soutien de la force de défense rwandaise, ce qui permet à l'AFC-M23 de renforcer son accès aux ressources minières du Sud Kivu où elle contrôle désormais près de la moitié de la production de cassitérite et de coltan et plus de deux tiers de la production de la wolframite. Par ailleurs, les experts affirment que le gouvernement de la République démocratique du Congo a continué à compter sur les Wazalendo comme force supplétive pour repousser les avancées de l'AFC-M23 soutenue par la force de défense rwandaise et reprendre les zones stratégiques clés.
Merci à vous, Askin Zigbia Tayoro. 6 mois après la signature de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les progrès réalisés dans sa mise en œuvre demeurent fragiles, inégaux et marqués par un essoufflement. C'est ce qu'indique le dernier rapport du baromètre des accords de paix en Afrique sur la période allant du 1er au 31 décembre 2025. Cette structure est une plateforme indépendante chargée du suivi, de l'évaluation et de la promotion de l'application effective des accords de paix sur les continents, en commençant par celui de Washington. Alain Rung revient sur quelques recommandations contenues dans ces rapports.
Face au blocage relevé dans la mise en œuvre de l'accord de Washington, le baromètre des accords de paix en Afrique formule plusieurs recommandations à l'intention des différentes parties prenantes. Pour le gouvernement de la RDC, accélérer la mise en œuvre d'opérations coordonnées visant à neutraliser les FDLR tout en garantissant une protection stricte des civils dans toutes les zones concernées. Envisager l'implication officielle de la MONUSCO dans les efforts de neutralisation des FDLR, notamment dans les zones où ces éléments sont présents mais actuellement sous contrôle de l'AFC-M23. Pour le gouvernement du Rwanda, mettre en œuvre sans délai le plan harmonisé de désengagement et de levée des mesures défensives, assorti d'objectifs mesurables et d'un mécanisme conjoint de vérification, fournir des garanties sécuritaires et ou judiciaires aux membres des FDLR encore présents en RDC, mais hésitant à se rendre afin de faciliter leur rapatriement volontaire. Aux États-Unis, le baromètre des accords de paix en Afrique recommande de continuer d'exercer une pression diplomatique sur les deux parties afin qu'elles respectent les délais convenus concernant la neutralisation des FDLR et la levée des mesures défensives rwandaises sur le territoire congolais.
Pendant ce temps au sud Kivu, les corps des civils tués dimanche dans le groupement Dikoma, territoire de Walungu, lors des affrontements entre l'AFC M23 et les Wazalendo, ont finalement été enterrés deux jours plus tard. Les habitants du village de Bumbalali, qui avaient fui les violences en laissant derrière eux les dépouilles de leurs voisins tués par des bombardements, ont retrouvé les corps toujours au sol à leur retour mardi. Au total, 4 personnes ont perdu la vie. 3 à Bumbalali, dans le groupement Dikoma, et une autre à Mwendo, dans le groupement de Walungu. Selon un habitant ayant requis l'anonymat, les corps étaient déjà en état de décomposition au moment de leur inhumation. On l'écoute.
Le calme était revenu mardi, quand les M23 ont quitté les milieux. Vers 10h, on était obligé d'aller au lieu où on avait tué les gens là. Les compatriotes tués ont été enterrés mardi. Le dernier a été enterré vers 18h passées. Lundi, les corps étaient encore sur les champs, là où ils étaient tués. L'administrateur du territoire de Walungu, sous l'AFC 23, avait demandé à la population de ne pas d'abord enterrer les gens, et il va envoyer les gens de la Croix-Rouge. Mais quand la Croix-Rouge était en cours de route, elle a entendu les coups de balles, parce que les Wazalendo, quand ils ont appris le départ de ses adversaires, ils étaient maintenant obligés aussi de venir au quartier pour se loger, faire le constat. Ils ont tiré quelques balles, puis ils sont retournés. C'est hier mercredi que la population a commencé à retourner d'une manière effective.
Notez qu'hier mercredi, dans la même région, les activités ont été fortement perturbées au marché de Mugogo après des coups de feu tirés et dans les environs. Pris de panique, les habitants ont couru dans tous les sens, provoquant une débandade générale et la perte de plusieurs biens de valeur. Justice. La Cour d'appel du Kasaï central a rendu son arrêt définitif dans l'affaire opposant le ministère public et les partis civils à David Ndaye Kalonda, alias Nsabanga et consorts. La décision a été prononcée lors de l'audience publique tenue mardi dernier. 3 prévenus étaient poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parmi lesquels le chef Nsabanga. Ces audiences foraines se sont déroulées à la prison centrale de Kananga avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD, de l'ONG Trial International et du Fonds pour la Consolidation de la Paix. Le point avec André Katendengala Moloumé.
Dit les infractions d'association de malfaiteurs.
La Cour a finalement rendu son verdict dans les procès Nsabanga et consorts. David Ndaye, connu sous le nom de Nsabanga, ainsi que son co-accusé Beya, ont été condamnés à la peine de mort pour crimes contre l'humanité, notamment meurtre, viol, esclavage sexuel, réduction en esclavage, torture et disparition forcée. En revanche, Chike Tampiana a quitté le tribunal en homme libre. Les avocats de 210 victimes se disent satisfaits de cette décision. Pour Maître Samuel Ntamboué, la justice a enfin été rendue aux victimes.
On ne peut que pousser les petits coquelicots d'autosatisfaction pour l'arrêt qui concourt à l'idéal de lutter contre l'impunité et que les dommages et intérêts sont alloués au nombre de 210 victimes.
Du côté de la défense, le verdict est contesté. Les avocats des condamnés annoncent leur intention d'interjeter appel. Benjamin Kaboué est avocat de David Ndaye Nsabanga.
Nsabanga et M. Beya sont condamnés à la peine de mort. Mais les deux prévenus jugent d'aller en appel contre cet arrêt.
Arrêté en 2019, David Ndaye Nsabanga était considéré comme l'un des membres influents du mouvement insurrectionnel Kamuinan Sapu dans les territoires de Dibaya, un groupe accusé des graves violations des droits humains au Kasaï. Kananga, André Katendingala Moulumé, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, 3 semaines après la violente agression de ses 2 enfants dans la résidence d'un responsable des services de sécurité de la République, Marie-Ange Mouchebekwa, ancienne ministre des droits humains, réclame toujours justice. Elle a réitéré sa demande ce jeudi lors d'un point de presse tenu dans la capitale. Elle exige que les hommes en uniforme qui ont passé ses enfants à tabac, ainsi que leurs commanditaires présumés, répondent de leurs actes devant la justice. Elle appelle à l'ouverture d'un procès équitable afin que les responsabilités soient établies. Les propos de Marie-Ange Mouchebekwa ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
3 semaines après le drame qui a frappé mes enfants, Claudien et Christopher, 18 et 17 ans, dans la parcelle de Philemon Mambaboa, la justice avance à pas de tortue. Je ne peux pas comprendre qu'après avoir vu les images qui ont circulé sur la torture que mes garçons ont subie, que 3 semaines après que les 7 policiers commis à la sécurité de Philemon Mambaboa n'aient pas été entendus, n'aient pas été arrêtés et sont toujours commis à la sécurité de Philemon Mambaboa. Philemon Mambaboa lui-même continue à vaquer librement à ses occupations, circule dans la ville de Kinshasa et j'ai l'impression qu'il y a des pesanteurs qui empêchent à la justice de bien faire son travail. Le fait que ces policiers soient toujours en liberté, ainsi que Philemon Mambaboa, vous comprenez que notre sécurité physique, mes enfants et moi, est en danger. Parce que l'action que nous avons engagée en justice les gêne et les dérange.
Les avocats de Marie-Ange Mouchebekwa affirment avoir déposé plainte à l'auditorat militaire. Radio Kapi a tenté en vain d'obtenir la version des faits de la justice militaire ainsi que de l'incriminé dans ses dossiers. Nous l'avons dit au sommaire, au Maniema, les cas de choléra persistent dans la zone de santé de Kindu. Selon les responsables de l'unité de traitement du choléra, 10 des cas ont déjà été enregistrés depuis le début de l'année 2026, dont un décès chez un adulte. Les autorités sanitaires appellent la population à éviter la consommation d'eau impropre, en particulier celle du fleuve et des rivières non traitées, et à respecter les mesures d'hygiène afin de limiter la chaîne des contaminations. L'unité de traitement du choléra de Kindu bénéficie encore d'un appui en médicaments de la division provinciale de la santé avec l'appui de l'OMS, ce qui permet d'assurer une prise en charge gratuite des patients. On écoute Ramazani Maenge, directeur chargé des prises en charge des patients de l'hôpital général des références de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
Effectivement, il y a la persistance de la maladie de choléra ou la diarrhée. Et ce qui est à la base, c'est les cas proviennent surtout de l'Amo et de la Val du Fleuve. Ainsi, ces malades qui viennent ont des maisons ici et ils viennent aussi contaminer leurs familles qui sont ici et surtout qui sont au bord du fleuve. Il y a les cas qui nous viennent surtout des aires de santé, des Lombo-Lombo, des Kasuku 1 et Basoko. La population doit éviter de prendre surtout l'eau du fleuve Congo et prendre surtout l'eau aussi bien désinfectée puisque nous avons les sites de désinfection. C'est cette eau-là que la population doit prendre. Bon, les cas qui arrivent si tardivement, vraiment, ce sont des cas à risque et ils nous consomment beaucoup. Ceux qui restent avec les cas à la maison, dès qu'ils remarquent seulement les cas, c'est mieux de venir avant temps avec au centre de traitement de choléra. Ce n'est pas payable, nous disons que c'est gratuit, le traitement est gratuit.
Cette autre nouvelle, dans le cadre du programme Kinshasa Zobonga, le gouverneur Daniel Bumba a conclu un partenariat avec Averda, une entreprise libanaise spécialisée dans l'assainissement pour améliorer durablement l'hygiène et le cadre de vie dans la capitale congolaise. Selon l'hôtel des villes, cet accord s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi visant à éradiquer l'insalubrité chronique à Kinshasa. L'actualisation des données des terrains est en cours et le lancement des opérations d'assainissement est prévu dans les prochaines semaines. Explication Élise Gavira.
L'accord entre le gouverneur Daniel Bumba et l'entreprise Averda a été signé mardi dernier avec l'ambition de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. À l'issue de la rencontre, un responsable d'Averda a donné davantage d'explications sur les engagements de la société.
Il s'avère qu'Averda a travaillé sur le sujet il y a 5 ans. On a fait une étude de la ville de Kinshasa sur tout le système d'assainissement et de la propreté de la ville. On va actualiser dès demain cette étude pour faire une proposition qui peut résoudre les problèmes de l'assainissement et des déchets à Kinshasa.
De son côté, le gouverneur Daniel Bumba a exprimé des grands espoirs quant à l'impact de ces partenariats sur l'assainissement de la ville.
Alors aujourd'hui, la ville de Kinshasa va mettre sur rail pour aller le plus tôt possible dans la réponse d'attente des Kinois. Ils vont composer avec la main d'œuvre kinoise pour nous permettre à pouvoir apporter ces grandes solutions attendues afin de rendre notre ville propre et rendre notre ville belle.
L'hôtel de ville de Kinshasa précise que les études techniques ont débuté le mercredi 7 janvier 2026 en vue du lancement des travaux dans les prochaines semaines.
Rendons-nous dans le territoire des Mwanda, au Congo central, où la population exprime une inquiétude croissante face à la progression alarmante de l'érosion des Kengeyaba, communément appelée Libulu ya Kisimbi. Ce phénomène, qui dure depuis plus de 20 ans, continue de menacer la vie des habitants, les habitations et les infrastructures locales. Selon plusieurs riverains, la situation s'est aggravée après les fortes pluies du mois de décembre, en raison notamment du manque d'entretien des caniveaux censés freiner l'avancée de l'érosion. Nana Purichimambu nous en parle.
Malgré diverses interventions, dont la construction des caniveaux par des entreprises chinoises en 2024, les pluies récentes qui se sont abattues sur la cité de Mwanda ont accentué la dégradation du site de Kengeyaba, situé au quartier Malamba Bendo près du marché central. Selon les habitants, les caniveaux installés pour canaliser les eaux sont trop étroits. Faute d'entretien régulier, ils sont aujourd'hui ensablés et insalubres, ce qui les empêche de recueillir efficacement les eaux provenant des différents quartiers et de les acheminer jusqu'à la rivière Ngoyo. Conséquence, l'érosion gagne du terrain, détruit des maisons, endommage des routes et ravage des quartiers entiers, plongeant de nombreuses familles dans la précarité accrue. C'est comme l'affirme Fabrice Kaniki, l'un des jeunes leaders de Mwanda.
Premièrement, la quantité d'eau reçue ne correspond pas à la dimension du caniveau. Nous avons aussi un problème qui se pose, c'est celui de l'entretien. Ce qui fait qu'il se retrouve à nouveau menacé suite aux premières pluies du mois de décembre. Et lorsqu'il y a des déchets qui s'y déversent, la conclusion est que le canal est bouché et les eaux débordent.
Face à cette urgence, les riverains, qui vivent dans la peur à chaque pluie, appellent à une intervention durable, des caniveaux correctement construits, un assainissement efficace et un suivi régulier de la situation. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Triste nouvelle en plus bref, la presse congolaise est en deuil. Le journaliste Médard Mbuyal Mangala de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC, est décédé ce mercredi à Kananga, dans la province du Kasaï Central. Selon le compte X de la RTNC, il s'était rendu sur place pour assurer des enseignements à l'université du Kasaï. Que son âme repose en paix.
Actualité internationale.
Les électeurs béninois sont appelés aux urnes dimanche 11 janvier pour des élections législatives et locales. Elles se déroulent à la date prévue un peu plus d'un mois après la tentative de coup d'État qui a secoué Cotonou. Les partis en lice terminent ce vendredi 9 janvier deux semaines de campagne avant un double scrutin qui marque le coup d'envoi d'une année électorale dans le pays.
L'invité.
Un mois après l'entérinement à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au nord Kivu et au sud Kivu. Comment expliquer cette persistance des combats? Que faut-il également retenir des récentes interpellations visant certains opposants? Et que penser de l'initiative appelant à la tenue d'un dialogue national? Ces questions ont été abordées lors de l'entretien que nous a accordé le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Muyaya s'entretient avec Guy Maté.
Bonjour Monsieur le ministre Patrick Muyaya.
Bonjour cher Guy Maté.
Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans le sud ainsi que le nord Kivu?
Écoutez, la situation, ce que nos troupes sont toujours engagées dans les lignes pour la défense du territoire national. Vous savez que le Rwanda, malgré la signature de l'accord de Washington, preuve que la dynamique de la paix enclenchée par Washington ne les arrangeait pas, a repris la guerre, notamment avec les opérations qui ont conduit à la mort de 1500 personnes. Nous avons fait un communiqué la dernière semaine pour présenter les bilans de ces actions macabres. Ils n'ont jamais quitté Uvira, comme prévu. C'était donc une fausse déclaration, une mascarade du fils visant à protéger le père de la foudre américaine. Mais cela dit, nos forces restent mobilisées pour tenir les lignes et assurer la défense du territoire.
Justement, après cette occupation de la ville d'Uvira, six jours après l'entérinement, n'est-ce pas, de l'accord de Washington, est-ce que le gouvernement congolais continue à faire crédit, continue à croire, à faire confiance au processus de Doha et de Washington?
Évidemment que nous avons confiance au processus de Washington et de Doha. La preuve, le président de la République s'est lui-même déplacé à Washington et régulièrement nous avons des émissaires qui vont à Doha. Ceci dit, nous connaissons l'ennemi en face. Nous savons quelles sont les vraies intentions de l'ennemi parce que l'accord de Washington ou les accords de Washington, s'il faut les présenter tels qu'ils ont été signés, vous avez donc l'accord de paix qui a été signé par la ministre Kai Kwamba. Vous avez l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est la dimension économique qui doit venir formaliser ou apporter plus de transparence dans les activités économiques dans la région. Et puis, il y a l'accord de partenariat stratégique qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis. Spécifiquement, dans le cadre d'intégration économique régionale, il était prévu que, avant que nous puissions passer à l'économie, nous devons faire la paix. Une paix que nous voulons définitive et une paix que nous voulons durable. Et la voie de la paix, d'une paix durable, qui précède un mécanisme de transparence ou de cleaning, n'arrange pas le président rwandais. Et donc, son attitude contre ce qui a été convenu à Washington en remettant les armes là où on avait apposé la signature pour la paix, signifie que le seul langage qu'il peut comprendre, c'est le langage de la pression, c'est le langage de la force.
Monsieur le ministre, que signifient ces arrestations de certains opposants que l'on constate actuellement?
Écoutez, d'abord, il faut savoir que nous sommes dans un contexte, malheureusement, où des Congolais sont complices de ce qui nous agresse. Vous avez des supplétifs, ce sont des compatriotes qui ont choisi de tourner le dos à la patrie. Et donc, vous avez d'autres qui, malheureusement, dans leur plan de déstabilisation, dirais-je, ils ne sont pas que dans les parties sous occupation. Ils ont des tentacules, y compris à Kinshasa. Et donc, chaque fois que vous voyez une interpellation se faire, une interpellation ne s'est fait jamais au hasard. Ça s'est fait parce qu'il y a de bonnes raisons. Un opposant n'est jamais interpellé par hasard. Évidemment, je n'ai pas les secrets des raisons de ces interpellations, ou des motivations plutôt, je dirais mieux, de ces interpellations, mais il faut considérer que ceux qui sont de l'autre côté se disent aussi des opposants. Et nous connaissons la proximité des uns des autres. Et donc, lorsque il y a des besoins pour les services d'intelligence qui sont censés nous protéger tous, défouiner davantage auprès d'un citoyen, qui soit-il, il faut permettre aux services de faire leur part.
Monsieur le ministre, pourquoi le chef de l'État ne convoque toujours pas les dialogues tels que prônés par la CENCO ainsi que les CCI?
D'abord, il faut savoir que le dialogue que le président de la République convoquera, c'est les dialogues dont la feuille de route a été conjointement élaborée par SSC, CENCO et les confessions religieuses, notamment ceux qui sont dirigés par l'évêque Yeji Bayamapia, qui ont travaillé avec les services du président de la République pour préparer ces dialogues.
Donc il finira par convoquer ces dialogues.
Il faut considérer d'abord de un que le président de la République est un homme de paix. Il a toujours été attaché au dialogue et à aucun moment le président de la République a renoncé à cette idée des dialogues.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, était avec Guy Maté. Voilà qui met fin à ce journal vespéral sur Radio Okapi, présenté par Grace Amzati et mis en onde par Alain Goy sous la coordination et la supervision d'Alain Irung. Sécurité, santé et paix restent les enjeux majeurs pour la RDC. Merci de votre écoute et surtout restez connectés sur votre radio pour suivre l'évolution de ces situations cruciales. Bonne soirée à toutes et à tous.